France Culture. h13h30, les midis de culture. Marie Laborie.
Elle vient d'entrer à l'Académie des Beaux-Arts à 84 ans, la voilà immortelle. La plasticienne Tania Moureau sera mon invitée à partir de 13h. Et vous l'attendez bien sûr, voici venue l'heure de la critique. Au programme aujourd'hui, l'actualité du 9e art. Nous avons choisi trois albums, Les Chroniques de la Paranoïa de Robert Crumb, God Bless America de Pierre-François Radis et Amer de Lucrèce Andrea. Vous écoutez les Midis de Culture, donne-moi ta main camarade. Et mes camarades de jeu, les voici. Joseph Gosse, directeur adjoint de la rédaction de Madame Figaro.
Bonjour. Bonjour.
Victor Massé de l'Épinay, rédacteur en chef adjoint du Pèlerin. Bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue à tous les deux. Prime à l'ancienneté pour commencer avec Chronique de la Paranoïa signé Robert Crumb. Ça faisait 17 ans que le pape de la BD underground américaine n'avait pas fait paraître d'inédit. À 82 ans, il scrute dans ses pages sa propre folie et surtout sa vision du monde. Paranoïaque donc. En 12 histoires, Crumb revient sur la vaccination anti-Covid. Il est contre, mais aussi l'existence d'un état profond ou des essais secrets sur les effets du LSD. Mais on trouve aussi dans cet album la dernière histoire qu'il a écrite avec sa femme Aline Kominski, morte en 2022. Joseph Gosse.
Honneur au plus vieux, mais j'aurais eu aussi envie de dire au plus grand, puisque Crumb, pendant très longtemps, a été le plus grand. C'est-à-dire, il n'y a pas eu meilleur que lui, ça a été le modèle de plusieurs générations à la suite, par son dessin, par la façon dont il racontait le monde, le contemporain, la société. Un nouveau livre de Crumb à 82 ans, c'est un événement. Et quand on regarde le dessin et même la façon dont le livre est construit, c'est-à-dire une suite d'histoires, comme vous l'avez dit, on retrouve le Crumb qu'on connaît, c'est-à-dire des livres construits avec des scénettes, des petites histoires, un peu à la façon américaine du comics à l'ancienne, une sélection d'histoires. Ensuite, Crumb, c'est un obsessionnel. Il a des obsessions, et c'est quand il s'attaque à ses obsessions qu'il est le meilleur. Une de ses plus grandes obsessions, ça a été le blues et l'histoire de la musique. Et quand il s'est attaqué à ça, c'est le cœur de ses chefs-d'œuvre. En sachant qu'il s'attaquait à la musique qu'il aimait, il l'a raconté, mais il avait aussi, comme un contrepoint, toujours, l'obsession d'être contre le monde contemporain. D'être contre la contemporanéité, d'être contre la pop. Et moi, je me souviens de la première fois que je l'ai interviewé, il y a longtemps maintenant, il disait « Je n'écoute pas de musique écrite après le début des années 60, l'invention de la pop, parce que ce n'est plus possible. » Donc c'est quelqu'un qui a toujours été dans ce système-là, mais avec des équilibres. Et il a aussi eu et je trouve qu'il est aussi excellent quand il a un vrai système narratif, qui est par exemple ces quelques planches qu'il a faites qui sont remarquables, qui sont vraiment un chef-d'œuvre, qui s'appelle Brève histoire des États-Unis. Bref, tout ça pour dire que là, il est dans une obsession. L'obsession, il la cache derrière le terme de paranoïa, mais son obsession, c'est comment comprendre le monde contemporain. Comment réagir face au Covid, comment réagir face aux théories conspirationnistes. Il s'attaque à ça, mais il n'y a pas de contrepoint. Il n'y a aucun contrepoint, et donc il sombre dans quelque chose qui, à mon sens, ressemble à une forme de folie. Il n'y a pas grand-chose pour l'arrêter. Et on a des pages qui sont, par ailleurs, je trouve, très belles, très maîtrisées, mais qui sont quand même des pages difficiles. Notamment celle où il y a beaucoup de textes, il use beaucoup de ce stratagème dont il a beaucoup usé par le passé, c'est-à-dire de se mettre face au lecteur, comme s'il y avait une caméra face à lui, et de raconter. Donc quand on est dans ces pages-là, c'est un peu, je trouve ça un peu compliqué, et ce n'est pas très convaincant. J'avais envie d'être convaincu, mais je ne suis pas tout à fait convaincu par ce qu'il raconte, même si je trouve que le dessin reste encore assez bon et assez fort.
Victor Massé de l'Épinay.
Ben, je partage un peu l'avis de Joseph. Je trouve qu'en effet, quand Crumb parle de musique, la première chose pour moi, qui ne l'ai jamais interviewé et qui suis pas de sa génération, moi, il m'apprend énormément de choses. Quand il parle de ses obsessions féminines, de ses fantasmes féminins, et c'était dans les années 60, 70, il y a quelque chose de, aujourd'hui, on pourrait presque dire de salutaire, d'avoir eu la franchise, l'honnêteté de raconter tout ça, et de nous avoir fait réfléchir à des générations de lecteurs. En effet, comme le disait Joseph, aujourd'hui, il parle de alors ça s'appelle de la paranoïa, mais en fait, c'est du complotisme et de son fond complotiste. Et d'une certaine façon, il ne nous apprend presque plus rien, parce que j'ai envie de dire, enfin, sur ce sujet-là, il est un complotiste parmi d'autres, il montre un peu comment ça marche, mais on est cerné, on sait comment ça marche, le discours complotiste, on sait comment c'est dur à contrer, on sait que pour ceux qui sont, que moi j'appelle complotistes, c'est difficile d'ouvrir les yeux aux autres qui sont dans une forme de déni, donc c'est ça qui raconte. C'est tout à fait dans l'époque, c'est bien, c'est bon, on va quand même parler, il y a des choses qui sont intéressantes, c'est bien raconté. Formellement, moi je trouve ça toujours tout à fait maîtrisé, mais voilà, comme disait Joseph, c'est comme un nouvel album de Dylan, c'est en soi un événement, bon, mais c'est pas, je pense qu'on peut, enfin, et l'œuvre totale fera sens un jour et sera prise évidemment comme un tout dont on verra les cohérences, les lignes de force. C'est sans doute pas là, dans ce livre-là, qu'il est le meilleur. Donc ça, je pense qu'on peut le dire. Après, ce qu'il dit sur le complotisme, moi, j'ai trouvé ça intéressant, parce que son point principal, lui, dans sa vie, ça a été le vaccin et le Covid, où il a été contre la vaccination. Et il explique... alors, il tourne autour avec beaucoup de sujets. Moi, ce qui m'a intéressé, c'est que, en fait, ces histoires tombent à plat. Et quelque part, le complotisme, c'est ça. Alors, quand on décortique certaines histoires, par exemple celle du deep state dont Joseph
l'état
a parlé,
profond.
Voilà, l'état profond. Vous savez, l'état profond, c'est cette espèce de confrérie de financiers, lobbyistes, scientifiques, hommes médiatiques, industriels, qui seraient en fait ceux qui gèrent ou qui déterminent l'agenda du pays et qui sont les vrais décisionnaires. Il fait le portrait d'une femme de l'état. Il dit, vous croyez que l'état profond, ça n'existe pas? Je vais vous raconter l'histoire d'une femme. Je ne dis pas son nom parce que ça pourrait me valoir des ennuis. Bon, il raconte absolument tout son CV. Et il fait son portrait assez fidèlement. Donc, on trouve en une seconde sur Internet de qui est cette femme. Elle s'appelle Margaret Hamburg. C'est une scientifique qui a été, pharma dans les grandes instances des États-Unis, du côté démocrate. Sur sa page Wikipédia d'ailleurs de Margaret Hamburg, on voit elle est dans la BD de Robert Crumb, Chronique de la paranoïa. Donc voilà, il dit, je peux pas dire son nom, mais il raconte sa vie. Et puis il nous décrit tout son CV. Et puis ça se termine par voilà une femme de l'état profond. Donc en fait il ne prouve absolument pas l'existence de l'état profond. Il raconte un CV. Bon, c'est un CV d'une femme puissante américaine, comme il y en a beaucoup. Rien ne nous dit que ça fait système. Il ne peut pas prouver ça, on ne peut pas prouver le complotisme, il y a une impasse, et on la trouve dans ces planches.
Ce qui est intéressant dans cette histoire, que j'ai trouvé plutôt vraiment bien dessinée, bien maîtrisée, on reconnaît immédiatement sa patte, c'est la même méthode qu'il appliquait à d'autres personnages, et notamment au chanteur de blues par exemple. C'est la même méthode, c'est-à-dire il prend un personnage et il raconte, il fait défiler son CV. Sauf qu'évidemment, avec les chanteurs, en fait, on pouvait écouter, on pouvait aller chercher, etc. Alors que là, on reste dans le vide. On reste dans le vide. Après, il y a des choses qui sont quand même assez vraiment touchantes. L'histoire avec sa femme, sur ce début de paranoïa, sur le fait qu'elle porte malheur à tous les éditeurs. Il y a aussi cette histoire qui s'appelle J'ai peur, I'm afraid, où il raconte sa peur du noir, sa peur, voilà. Ça, c'est vraiment touchant, et c'est du Crumb comme on le connaît. Pas forcément comme on l'aime, mais comme on le connaît.
Chronique de la paranoïa, Robert Crumb, c'est paru chez Cornelius. On enchaîne avec God Bless America, bande dessinée de Pierre-François Radis, remarqué en 2022 avec Al Capone, son premier roman graphique. L'auteur reste en terres états-uniennes et adapte le roman Le Cherokee de Richard Morgiève, paru chez Gallimard. Nous sommes dans les années 50, dans les plaines désertiques de l'Utah, et le shérif Nick Corey, en patrouille, assiste à une série de phénomènes étranges. Les cow-boys du FBI ne vont pas tarder à débarquer, mais Corey, lui, n'a qu'une idée en tête, retrouver le tueur en série qui a assassiné ses parents. Victor Massé de l'Épinay.
Qui a assassiné ses parents et qui sévit, semble-t-il, de nouveau. Et qui est surnommé le dindon pour un rire qui ressemble au gloussement d'un dindon et qui a des dents en argent ou en acier. Peut-être qu'il faut dire un mot.
Décrire un peu, oui.
Oui, un mot de cet album d'abord. Ouais. Les éditions Sarbacane nous habituent à faire des albums qui sont toujours très bien fabriqués, très bien conçus avec des dos toilés, des grands, des couleurs très 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 bien, très soignées. Ce livre-là est assez immense et assez énorme. Personne de nous l'a apporté en studio aujourd'hui parce que ça prend trop de place dans le sac et ça pèse lourd. Mais c'est un très beau livre. Quelquefois, je me demande si l'écrin n'est pas trop beau pour certaines histoires. Je me dis ça dessert presque parce que ça fait aussi monter le prix de l'album. Là, j'ai pas trouvé du tout. On a un livre très grand, du papier épais, pour un noir et blanc et gris très élégant. Moi, je serais très curieux de voir les planches de Radice parce que il y a une maîtrise de la lumière, des gris. Je sais pas exactement comment il fait. On voit par moments qu'il y a des éclats de phare qui sont faits avec du Tipex, mais il y a quelque chose de très élégant. C'est un livre que j'ai beaucoup aimé. C'est un polar à la frontière, enfin parfois un peu gore. À la frontière du western, mais pas tellement. Peut-être que le livre de Morgiev était un peu plus sur cette question. Il s'appelle Le Cherokee. Si on lit le livre de Radice, l'adaptation qui en est faite, on comprend pas bien pourquoi il s'appelle Le Cherokee. En fait, c'est parce que le personnage principal a aussi des origines indiennes et ça fait partie de lui. Là, il a gommé cette partie-là. Mais c'est un livre que j'ai beaucoup aimé, notamment, comme un certain nombre de polars, par la galerie de personnages secondaires qui est fait. Le shérif Nick Corey erre dans l'Utah, ça se passe dans les grands espaces, et il rencontre des personnes souvent isolées, souvent cabossées par la vie, un vieil orfèvre, un vieil ermite, un ancien vétéran de la guerre du Pacifique qui vit dans les collines, et il y a des échanges avec les uns et les autres. La mort rôde partout, frappe tout le monde indistinctement avec ce tueur psychopathe fou, mais il y a des vrais passages donc c'est assez dur à lire, c'est un polar sérieux, quoi, assez poisseux, assez angoissant, et à la fois avec des vrais éclats de tendresse que j'ai trouvé très très beau.
Joseph Gosse.
Alors moi j'ai vraiment adoré cette lecture. C'est une lecture d'abord d'une facture qu'on peut penser extrêmement classique, c'est-à-dire c'est une bande dessinée quand on la regarde qui est presque à l'ancienne, et moi j'ai vraiment adoré ça.
À l'ancienne, c'est-à-dire ?
C'est-à-dire c'est des planches avec des cases, une construction graphique comme ça qui évolue un peu comme un album de bande dessinée. Vraiment, vraiment très classique, avec parfois de très belles grandes planches qui font une interruption dans le récit. Le récit est vraiment construit comme un récit à la MacGuffin, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on pourchasse ? On pourchasse quelque chose, mais en même temps, c'est pas exactement ça. Et l'intérêt, il est dans cette poursuite narrative, mais en même temps, l'intérêt, il est aussi un peu partout ailleurs, dans les sentiments, la façon dont les sentiments évoluent, les personnages secondaires, l'histoire d'amour. Il y a une vraie histoire d'amour entre les deux personnages masculins. Qui est très belle, très touchante. Donc il y a tout ça. Il y a aussi une vraie complexité de lecture, c'est-à-dire que dans la trame narrative, il y a plusieurs intrigues qui s'entrecroisent. Et au bout d'un moment, on se demande si le personnage principal n'est pas un personnage schizophrène ou paranoïaque. C'est-à-dire, on ne sait plus vraiment qu'est-ce qui existe, qu'est-ce qui est dans le réel, en fait. Et ce gris, ce noir et blanc contribue vraiment à ça. Ensuite, je trouve qu'il y a quelque chose d'extrêmement élégant dans la construction, oui, mais dans le dessin. C'est un dessin qui m'a beaucoup fait penser aux années 80, aux planches de Loustal, par exemple, à toute cette ligne claire. Vraiment, le trait m'a vraiment rappelé Loustal et ces grands récits comme ça, très maîtrisés, mais avec en même temps une vraie liberté dans le trait, dans le phrasé aussi. Et enfin, il y a aussi une autre complexité qui est que c'est une adaptation d'un roman, mais qui fait lui-même référence par le nom de son personnage à un roman tardif de Jim Thompson, dans lequel le personnage aussi de Jim Thompson, qui porte le même nom que le personnage principal de ce livre-là, dissimule des choses. On est vraiment dans un livre qui est une construction dans une construction dans une construction, et tout l'intérêt de cette bande dessinée, c'est d'arriver à montrer ça. Et on le perçoit petit à petit à travers les paysages, à travers la façon dont le personnage évolue, tout ce qui meurt autour de lui. Et moi, j'ai vraiment trouvé ça remarquable. En tout cas, je l'ai vraiment lu d'une traite, malgré le format, malgré l'épaisseur.
Victor Massé-Lépiné.
Oui, j'ajoute une chose. En effet, le dessin est très élégant. On l'avait découvert. En effet, vous avez dit Pierre-François Radis avec Al Capone, qui était un très, très beau livre chez Sarbacane aussi, en couleur, avec ce mélange de styles. En fait, le dessin, il y a un peu de style. Il y a une sorte de précision dans les décors. Alors, dans Al Capone, c'était l'architecture de Chicago qui était très bien rendue. Et puis, ces visages très stylisés, très presque synthétique, avec là un personnage principal qui ressemble un peu, enfin qui fait pas tellement indien, hein. Encore une fois, il a gommé ce qui ressemble plutôt à
un acteur, à un chanteur indien, chanteur des années 50.
Il y a une autre chose qui est très jolie, c'est les textes. C'est-à-dire que on a ce personnage principal, ce policier, ce shérif Nick Corey, qui a un monologue intérieur, qui a une sorte de voix off qui nous accompagne comme ça tout au long de la lecture et qui est très poétique, très désespéré. C'est un homme donc je sais pas si on a qui a été accusé lui-même du meurtre de ses parents. Ses parents ont été massacrés quand il était jeune et il a été suspecté et puis reconnu coupable, accusé. Il est allé en prison pendant un temps jusqu'à ce qu'on comprenne avec une autre scène de crime qu'il était innocent. Mais il a été marqué par la mort, par la culpabilité. Et il s'en est jamais sorti.
Ça transparaît par le texte.
Il dit il dit au début je suis mort à la vie. Et mais il y a des phrases un peu poétiques. À un moment il dit je vivais dans la crasse, dans la haine, dans l'abjection. C'est quelqu'un qui est très noir. Il a des pulsions suicidaires par moment, mais il vit pour ses parents. On sent qu'il danse avec la mort tout le long. Et à un moment il dit je me sentais. Il est en train de manger des crêpes chez un vieil orfèvre. Pour moi c'est vraiment la plus belle scène. Un vieux type un peu pas très sympathique, mais ils arrivent à se rencontrer, ils mangent des crêpes et il dit « je me sentais bien dans mes bottes, par la fenêtre, le Far West crevait ». Cette espèce de western crépusculaire, c'est pas complètement original d'une certaine façon, mais c'est très joli, les mots sont très beaux et il y a quelquefois des pages, notamment à la fin, une sorte de long poème. Je ne sais pas si c'est dans le texte de Morgiev, je ne suis pas allé regarder, ou si c'est une création originale de Radis. Mais en tout cas, il y a une vraie poésie dans le texte.
Joseph Gosse ?
Oui, moi, ça m'a vraiment fait penser au texte que Paringo mettait sur le dessin de Loustal. Il y a aussi effectivement tout un aspect au-delà du récit d'aventure un peu gore. Il y a un aspect très psychanalytique sur ce retour du refoulé en quelque sorte, c'est-à-dire le retour des parents, la façon dont ça vous hante, la façon dont vous vivez avec la mort et ce que vous arrivez à en faire, et finalement de la voir un peu partout. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure le personnage du tueur en série qui se balade autour de lui et qui a l'air insaisissable. On se demande ce qu'il en est vraiment, en fait. Est-ce qu'il existe vraiment, ou est-ce que ce n'est pas son imagination? Est-ce que ce n'est pas lui, finalement, aussi, ce tueur-là? Je trouve qu'il y a beaucoup de jeux comme ça qui sont possibles dans cette lecture. C'est effectivement quelque chose d'assez... Une lecture très classique, très, très linéaire, qui fonctionne très très bien, mais qui peut vraiment questionner le personnage central et la façon dont on arrive à le lire. Et je suis certain qu'au fil des lectures, il y a des choses qui peuvent se dévoiler ou se décanter. C'est vraiment un livre que je porte longtemps encore après l'avoir lu, en me posant vraiment des questions à la fois sur la trame, la façon dont ça a été dessiné, les planches, comment est-ce qu'elles ont été conçues. Il y a beaucoup de questions.
J'ai vu que les planches avaient été exposées il y a quelques jours ou quelques semaines dans une librairie parisienne.
Ouais, voir.
Et je crois que c'est fini, mais je pense qu'elles vont, enfin que l'exposition, elles sont encadrées. J'espère que ça va tourner et qu'on pourra aller les voir un jour ou l'autre quelque part.
À suivre donc God Bless America de Pierre-François Radis, apparu chez Sarbacane.
Qui n'a pas subi les modes diverses et souvent contradictoires pour attendre et élever son enfant?
Je le faisais parce que, en tant que mère, il fallait que je le fasse. Tout ce qui était soins, tout ce qui était allaitement.
Et puis, les mères qui sont anxieuses pour la nourriture, il n'y a rien qui pervertit plus le caractère d'un être humain que de voir une mère dans tous ses états hirsutes d'anxiété et de doute d'elle-même parce qu'un enfant ne veut pas manger. Ben, il mangera plus tard, il vaut mieux rire, chanter et tant pis pour la dose qu'il n'a pas prise.
Les angoisses des mères imparfaites, des mères quoi. Avec Amère, Lucrèce Andrea raconte les désillusions de la maternité. Heureuse dans son couple, dans sa vie, elle décide d'avoir un enfant et d'être une mère qui respectera coûte que coûte les rythmes de sa progéniture, au risque de s'oublier, ce qui arrive évidemment, et produit l'effet inverse, elle ne supporte plus la chair de sa chair. Amère est la deuxième BD de Lucrèce Andrea, après Flipette et Vénère paru en 2020, et elle a reçu aussi le César du meilleur court-métrage d'animation, c'était en 2018, Joseph Gosne.
C'est une lecture assez troublante. Alors évidemment, au début, on se dit, ah oui, encore un livre à sujet d'une femme qui raconte du vécu, mais après tout il y a eu on est passé par des années de livres de mecs qui racontent leur vécu. Ensuite rentrer dedans a été un peu compliqué pour moi à cause d'un dessin que j'ai eu du mal à lire ou à déchiffrer. Les dessins sont petits. Alors là, pour le coup, c'est vraiment l'inverse total du livre dont on parlait avant. C'est des dessins en couleur, on dirait qu'ils sont faits au feutre. C'est petit, il y a pas vraiment de cases. C'est très très ramassé. Et puis d'un coup, il y en a une page qui explose, mais elle fait face à une page où il y a un tout petit dessin. Donc il y a une construction qui au départ est un peu étrange. En tout cas, moi elle m'a un peu mis à distance, mais à force de creuser, de continuer le récit, je me suis pris au jeu et je me suis pris au fait que c'était une écriture et que ça avait l'air d'être comme une sorte d'écriture pas automatique mais comme une forme d'écriture un peu rapide et que le dessin et ce qui est raconté se mêlaient. Ça se mêle vraiment et j'ai vraiment eu cette impression d'une rapidité, d'une forme de journal, puisque c'est un peu ça, c'est un journal rétrospectif sur cette maternité-là. Et puis, ce qui m'a aussi assez bluffé, c'est que, au fond, cette histoire qu'elle raconte, elle est assez banale, elle est arrivée à tous les parents, d'une façon ou d'une autre. On l'a vécu à plusieurs niveaux différents, mais voilà, c'est une histoire assez banale. Ce qui est intéressant, c'est la façon dont elle est racontée et jusqu'où elle la pousse. C'est-à-dire la façon dont elle raconte vraiment ses angoisses, ses envies de repousser cette maternité-là, la façon de dire, une fois que l'enfant est là, finalement, on n'a pas été prévenu, mais on est emprisonné. Et aussi de dire, d'avouer un moment qu'elle a adopté des préceptes au début du livre, qui sont les préceptes d'une éducation positive, c'est-à-dire de suivre vraiment l'enfant, et à un moment de se rendre compte, en fait, ça n'a pas marché, et est-ce que je me suis pas fait bluffer? Et donc, vers le milieu et la fin du livre, ça pose vraiment des questions, et ça m'a passionné, et avec en plus toute la construction sociale autour, c'est-à-dire comment ça affecte les amitiés, les amours, et ce qu'on devient à partir de ça.
Victor Massé de Lépine.
Alors, assez d'accord avec Joseph aussi. Moi, quand j'ai vu arriver cette bande dessinée, moi, j'avais beaucoup aimé Flipette et Vénère, ouais. Qui était paru il y a quelques années. Et j'ai été. Mon premier mouvement, ça a été d'être déçu, de me dire pourquoi est-ce que, encore, une jeune autrice talentueuse, très talentueuse, qui commence par de la fiction, moi, je vois ça comme une difficulté à enchaîner, à continuer, revient sur le vécu, la vie. Et je me suis lancé avec une petite appréhension. Et comme Joseph, c'est un gros livre, 220 pages, avec une lecture qui n'est pas évidente, une écriture manuscrite dans laquelle il faut rentrer. Je me suis dit, ça va peut-être être long. Et en fait, j'ai été très frappé, moi, très, très marqué par ce livre, et qui est dérangeant. Hein. Je crois que c'est un livre que tout le monde ne va pas apprécier. Pourtant, je sais pas à qui il faut le conseiller. Mmh. Est-ce qu'il faut le conseiller à une jeune fille ou à un couple? Parce qu'en tout cas, ce dont je suis sûr, c'est qu'il faut que les pères le lisent. Voilà, on est deux hommes pour en parler. Parce que c'est un livre sur la maternité, sur ce que ça fait. Il y a vraiment Tout est abordé, hein, le corps, les fausses couches, les douleurs de l'allaitement, le postpartum, l'ennui avec son bébé quand on est en congé mat et qu'on est là à dire, et la culpabilité surtout qui est le grand sujet du livre, la culpabilité de ne pas faire assez, de ne pas savoir bien faire, de ne pas aimer assez son enfant. Mais alors là où je suis pas d'accord avec Joseph, c'est que j'ai l'impression dans ce qu'il a dit qu'on pourrait comprendre que c'est un livre sur l'arnaque de la parentalité positive, voilà, ou de la bienveillante.
Oui.
En fait, en effet...
Au départ, elle part avec cette idée-là.
Elle part avec cette idée-là, mais elle ne finit pas en disant, finalement, non, comme on a aujourd'hui. En fait, c'est perpétuellement, on est assailli de contradictions et de discours qui se contredisent les uns les autres. Vous avez noté que les chiffres de la natalité sont en berne en France, que Macron va écrire aux jeunes de 29 ans, etc. En fait, il y a quelques... Est-ce qu'une lettre de Macron va inciter à faire des enfants? Est-ce que tel ou tel sociologue qui écrit... En fait, tous les jours dans les journaux, en ce moment, on a des articles, on a des citations d'Erasme qui dit qu'il faut un peu... Dans La Croix, avant-hier, il y avait une belle citation d'Erasme qui dit qu'il faut de la folie pour se lancer dans la maternité, etc. Bon, très bien. Alors, injonction à la folie. Zut, je suis pas assez fou. Injonction à la sagesse. Je suis pas assez sage. Injonction. Et en fait, on ne s'en sort pas. Et je pense sincèrement, qu'on le dise ou qu'on le dise pas, qu'en fait... Tous les parents vivent ces contradictions, que ça ne s'arrête pas d'ailleurs à 2 ans ou à 3 ans, et que ça dure, et qu'à l'adolescence, c'est encore quand nos enfants sont ados, c'est d'autres. On ne sait pas quoi faire. On est dans une époque où on a du mal à assumer une forme de négativité, de manière générale, et où on se compare sans cesse. Je trouve que Lucrèce André ne donne pas de réponse, n'est pas là pour faire la morale, mais va au bout des difficultés qu'elle a traversées. Elle nous raconte vraiment les choses. Et en tout cas, chez moi, ça a suscité vraiment du dialogue et de la relecture. Et ça, c'est quand même déjà positif.
Mais c'est-à-dire qu'il y a un basculement dans le livre à un moment donné.
Joseph Gosne. Oui, alors
évolution.
Il y a une évolution, il y a même plusieurs basculements. Enfin, le basculement dans la perception, un basculement aussi dans la dépression, c'est-à-dire qu'à un moment elle rentre elle subit quelque chose une nuit, elle se réveille totalement différente et elle met ça en dessin, et c'est ça pour le coup, c'est vraiment assez bouleversant. Moi je l'ai vraiment lu comme un livre qui pose des questions sur l'expérience, c'est-à-dire comment on raconte cette expérience-là, ce moment-là de la vie qui est un moment commun, banal. Comment on le raconte et comment on en fait une bande dessinée. Et je trouve que l'urgence avec laquelle elle a l'air de dessiner, qui au départ est assez désemparante, vraiment parvient à des moments effectivement très forts, très durs, assez douloureux et qui pose vraiment question. Moi, de mon point de vue d'homme, de parent, de papa, quand je vois le personnage masculin qu'elle dessine, ça me questionne, parce que oui, je reconnais mes propres tactiques de fuite, d'évitement ou de paternité. Je reconnais ça là et je me dis, ah oui, c'est vrai. Et c'est quand même assez salutaire de voir ça dessiné par elle. Et le fait même qu'elle le remarque au milieu de sa propre tourmente. Et ça, c'est, de ce point de vue-là, c'est touchant.
Victor.
Moi, j'ai pas vu de grande bascule. J'ai vu quelqu'un qui tourne en rond, qui l'assume, qui cherche. Au début, elle commence avec un livre de parentalité positive en disant ça va être ma bible. Ensuite, elle lit la Lèche Ligue qui prône l'allaitement pendant longtemps. Elle dit ça va être mon guide. Ensuite, elle trouve un autre qui s'appelle Alan Kazdin. Elle dit Kazdin, c'est mon messie. Et tous ces mots, c'est pas rien. Il y a quand même quelque chose. Au début de la vie et à la fin de la vie, ce sont des sujets qui sont très actuels en ce moment. Et ça révèle quelque chose beaucoup plus largement de notre rapport à la vie, à l'existence, peut-être à la transcendance. Parce que c'est
la recherche d'une croyance.
Il y a la recherche d'une croyance, d'un catéchisme, en l'occurrence, presque pour elle, très normatif. On délègue sa liberté, sa réflexion, et elle l'expose crûment. Pour moi, c'est un livre qui fait vraiment, qui peut vraiment faire réfléchir.
Amer de Lucrèce Andréa, et c'est paru chez Delcourt Ancrage. Merci beaucoup, Joseph Gosne, Victor Massé de l'Épinay. Merci d'être venu dans les Midis de Culture. On se retrouve très vite. Et vous qui nous écoutez, pareillement, on se retrouve très vite.